La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre frère, le Christ notre Sauveur. Bienvenue à vous qui vous êtes réunis ici pour ce temps de culte. Bienvenue particulièrement à Suzanne, à Sophie, à Alexandre, les catéchumènes qui vont nous accompagner dans la liturgie de ce culte. Il est bon que vous soyez venus, d'où que vous veniez. Il est bon que nous soyons ensemble, qui que vous soyez. Il est bon de mettre ce temps de culte à part pour écouter et faire silence, pour chanter et prier, pour exposer notre être au souffle d'amour et de vie qui passe en nous et entre nous. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, nous voici, nous sommes là, présents par ta présence, vivants de ta parole, émus de ta bonté. Nous avons apporté des soucis, des chagrins, des amertumes et aussi des joies, des tendresses, des espoirs. Quand tout cela vienne maintenant ton esprit et ta parole. Amen. Restons debout pour le temps de la louange dans laquelle Suzanne va nous conduire.
Loué sois-tu, éternel Dieu. De la glaise originelle, tu nous dégages, Dieu de vie. Des chaînes de la peur, tu nous délivres, Dieu de liberté. Dans le tumulte de nos désirs, tu nous orientes, Dieu de paix. À l'heure du naufrage de nos illusions, tu nous encourages, Dieu de salut. Malgré le labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous appelles, Dieu de communion. Au désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Loué sois-tu, éternel Dieu. Amen.
Et nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité, le psaume 36 que nous chantons en entier.
Thank you.
écoutons la volonté de Dieu pour nos vies, et c'est Alexandre qui va nous dire le texte retenu pour aujourd'hui.
Dans le livre du prophète Jérémie, nous lisons « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, projets de bonheur et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance, dit l'Éternel. »
Dans la prière, nous nous présentons à Dieu tel que nous sommes. Nous nous tournons vers lui. Éternel, je ne veux pas maintenant faire la liste de mes manquements et de mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je veux déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Pas seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand j'ai le temps ou quand ça me plaît, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit vivifiée et apaisée par toi. Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je doive faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie de la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon que Suzanne va nous dire.
Guetteur de l'aube, Dieu fait se lever au plus sombre de toi une nouvelle aurore. Chercheur d'eau vive, Dieu fait surgir au plus dur de toi une source inépuisable. Mendiant sans force, Dieu aime au plus creux de toi ta pauvre fragilité. Ne crains pas. Au plus tiens de toi-même, Dieu souffle la vie éternelle. Ceci est vrai, fiable et solide.
Et nous chanterons au cantique 219, Dieu de lumière, esprit de vie. Le texte biblique qui va porter notre méditation de ce jour, c'est celui qui a été partagé, travaillé samedi dernier au catéchisme, à la séance qui nous rassemblait. Et avant de le lire, et ce sont les catéchumènes qui vont le lire, nous prions. Nous t'invoquons, ô notre Dieu, mais ta présence est déjà dans nos cœurs. Nous ne dirions pas « c'est toi » si tu n'avais déjà murmuré en nous « c'est moi ». Au travers des mots de la Bible, par ton esprit souffle de vie, viens nous parler. Nous t'écoutons. Amen. C'est donc dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, les versets 1 à 12.
Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager de l'Éternel lui apparut dans un feu flamboyant, du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit : « Je suis là. »
Dieu dit : « N'approche pas d'ici. » Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se détourna car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit : J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays. Un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Canaéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie près du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. »
Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je suis et je serai avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. »
« Qui suis-je ? » demande Moïse. Le lecteur du livre de l'Exode pourrait tenter une réponse. Moïse est né dans le peuple hébreu, peuple esclave au pays d'Égypte. Il est un enfant destiné à mourir dès sa naissance, par la volonté de Pharaon qui est déterminé à réduire ce peuple étranger qu'il estime trop nombreux sur ses terres, parmi les Égyptiens. Pharaon ne recule devant aucun moyen. Travaux forcés, oppression cruelle, jusqu'à la mise à mort des enfants mâles. Alors la mère de Moïse, après avoir caché sa naissance, doit se résigner au bout de quelque temps à se séparer de lui. Elle le dépose dans une boîte qu'elle laisse sur les bords du Nil, ce qui n'est pas forcément l'endroit le plus sûr du monde. Heureusement, la fille de Pharaon le découvre, l'adopte. Elle lui donne même son nom, Moïse. Moïse grandit donc comme un Égyptien, dans un milieu très privilégié, jusqu'à ce que, devenu grand, adulte, il doive fuir. En effet, il a tué un Égyptien qui frappait un Hébreu. Mais les Hébreux ne l'en accueillent pas avec reconnaissance pour autant, au contraire, ils le rejettent. Et Pharaon, apprenant la mort de l'Égyptien, cherche à tuer Moïse. Arrivé au pays de Madian, Moïse trouve un foyer chez Jéthro, prêtre du peuple de Madian, et il épouse même une des filles de Jéthro, Sippora. Ils ont un fils, prénommé Gershom, ce qui signifie « immigré ». Car, dit Moïse, « je suis un immigré dans un pays étranger ». Il ne se sent pas du tout madianite. Alors qui est Moïse ? Un adopté ? Un meurtrier ? Un homme en fuite, en exode ? Un immigré ? Un homme écartelé entre ses origines hébraïques et son éducation égyptienne, mais qui n'est reconnu et accepté ni par les uns ni par les autres. Un réfugié au pays de Madian, qui, tout en y étant installé, ne s'y trouve pas complètement chez lui. Un berger qui s'occupe des troupeaux de son beau-père. Un mari et un père. Situation paisible. Avenir tout tracé. Mais quand même, écartelé, coupé de ses racines, installé et hors sol, en famille mais sans peuple, c'est compliqué d'être Moïse. Et malgré tous ces détails biographiques, c'est pourtant bien flou d'être Moïse. Qui suis-je ? C'est quand même une question qui se pose à chacun au cours de l'existence, lors de crises, lors de passage d'une situation à une autre, de changements décidés ou imprévus. Lorsqu'on se trouve pris dans des événements qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas choisis, avec peut-être le risque de disparaître, de ne plus être, de perdre ce qu'on a pu préserver de soi. Lorsqu'on se rend compte que « qui ai-je ?» est déterminé par le regard ou par la parole des autres, une assignation d'identité aussi inconfortable, insupportable qu'un vêtement mal taillé. Ce jour-là, Moïse fait un détour. Ce n'est pas que son chemin ait été particulièrement droit jusqu'à ce jour. Mais Moïse se détourne de son chemin de berger parce qu'il a vu ce buisson en feu qui ne se consume pas. Encore un événement inattendu et même inexplicable que celui-là. Encore une aventure, s'il fallait en faire un film. Mais le film a été fait, n'est-ce pas? Ce qui se passe ce jour-là, c'est que Moïse advient. Moïse advient en Moïse. Et ça, c'est aussi une aventure. Parce que si Moïse ne sait pas bien qui il est, il sait encore moins qu'il va advenir et qui va advenir. Parce que s'il savait qui il va advenir, ce ne serait plus une advenue, ce serait un plan de carrière, une entreprise de développement personnel. Moïse ne sait pas qui est le Moïse qui advient, ni ce qu'il deviendra. Parce que si une advenue, c'est une aventure, eh bien, elle ouvre à un devenir qui est encore une autre aventure. Nous pouvons tout à fait faire des projets, des plans pour devenir qui nous voudrions être. Nous pouvons choisir des orientations, par exemple à l'âge de Suzanne, de Sophie, d'Alexandre, il y a des orientations scolaires à prendre. Puis il y a des orientations professionnelles ou artistiques, puis nous pouvons en changer aussi. Tout au long de notre vie, même si nous ne décidons pas de tout, nous faisons des projets en fonction de notre personnalité, de nos goûts, de nos talents, de nos désirs, de nos rêves, et nous tâchons de les mener à terme, même si tout ne dépend pas de nous. Mais ce qui arrive à Moïse, c'est autre chose. Dans le buisson en feu, une voix l'appelle. « Moïse, Moïse !» Dans la Bible hébraïque, le feu signale souvent une manifestation du divin. C'est une manière de dire que Dieu fait signe, une manière de dire qu'il n'y a pas que le cours des choses dans les existences. Il y a dans ce qui se passe des manifestations, des signes, des traces, des échos du divin. Et parfois, nous y sommes sensibles. Nous les discernons. Et alors, il n'y a pas que nous et ce qui se passe. Il y a autre chose. Avec des mots toujours imparfaits pour parler de lui, nous pouvons dire que Dieu est là, présent, et que cette présence, c'est une entrée en relation. Le buisson en feu, l'appel, Moïse, Moïse. Une entrée en relation par un Dieu qui se veut en relation. Et Moïse répond, « Je suis là. » Comme quoi il est possible de répondre, « Je suis là », même si on ne sait pas très bien qui l'on est. « Je suis là, » dit Moïse. En même temps, un « je suis » assez flou, enchevêtré dans une histoire compliquée, un « je suis » diffracté de l'Égypte à Madian, du peuple hébreu à Sippora et à Guershom, un « je suis » essoufflé de la fuite hors d'Égypte et empesé de ses habitudes de berger. Et puis un « là », qui est le lieu où se tient ce corps qui est Moïse. Là et pas ailleurs. Là autant qu'il peut, de tout son être imprécis. Il n'est pas besoin d'être sûr de soi pour répondre « je suis là », que ce soit à Dieu ou à une autre personne. Il n'est pas besoin d'être certain de son identité pour que Dieu fasse signe pour entrer en relation, ni d'être au clair avec soi-même pour entendre un appel. Alors Dieu qui a fait le premier pas, qui a dit le premier mot, aide Moïse à transformer son détour de chemin en un mouvement d'être. Un détour pour se trouver, ou se retrouver, ou pour être trouvé. Le récit de Moïse nous donne à penser dans nos routes quotidiennes, nos habitudes rassurantes ou ronronnantes, ou dans nos quêtes de refuge hors des tumultes du monde. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Dans bien des cultures et des religions, se déchausser, c'est un signe de respect et de service, un signe de dépouillement. Mais ici et aujourd'hui, hors la plage et le jardin, les pieds sont rarement nus. C'est plutôt chez soi que l'on se déchausse, dans une intimité. Alors, pieds nus, directement avec le sol, Moïse a les pieds sur terre. Non qu'il ait à cesser de rêver ou d'échafauder des projets irréalisables, mais il a les pieds sur terre, une terre qui n'est pourtant pas la sienne, mais c'est une manière déjà de se sentir un peu plus soi-même. Même avec les cailloux et les épines du désert, le jeu qui est là l'est déjà un peu plus pieds nus. Mais enlever ses sandales ne suffirait pas à ce que Moïse enfin advienne si Dieu, celui qui se tient là aussi, ne se présentait et ne se révélait. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est-à-dire le Dieu qui rencontre, qui a rencontré, qui rencontrera, le Dieu qui a parlé, qui parle et parlera, le Dieu qui accompagnait les patriarches, différemment, chacun selon qui il était et le chemin qu'il suivait. Et maintenant Moïse, et Dieu est avec lui encore différemment qu'il l'était avec Abraham, Isaac et Jacob. La rencontre est autrement. Chacun, Abraham, Isaac, Jacob, maintenant Moïse, est engagé dans une expérience propre, une relation personnelle avec le divin. Et la Bible donne à lire bien d'autres récits, et nous en lirons quelques-uns au caté. D'autres récits de rencontres entre Dieu et les hommes et des femmes, de multiples exemples qui témoignent d'une extrême diversité dans les expressions de foi et dans les manières de répondre à Dieu. Et cette diversité nous permet de ne pas chercher à reproduire un modèle précis. Nous faisons nos propres expériences, et pour les générations suivantes, il en sera de même, enfin il en sera plutôt autrement. La révélation pour Abraham n'est pas exactement la révélation pour Isaac, qui n'est pas exactement la révélation pour Jacob, qui est différente de celle faite à Moïse. Et tous ces témoignages bibliques enrichissent nos compréhensions de l'existence, nos compréhensions de la foi, nos compréhensions du Dieu qui appelle. Et cette multiplicité d'exemples, de rencontres, parfois assez surprenantes, est une source d'espérance. Nos chemins de foi, nos quêtes de Dieu sont toujours singulières. Les paroles pour en parler sont différentes et pourtant nous avons besoin des récits d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse et de tant d'autres dans les textes bibliques ou ailleurs. Nous avons besoin de ces autres récits pour reconnaître qui nous appelle et pour trouver nos propres paroles, nos propres réponses. Et nous trouver ainsi reliés à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui sont en même temps que nous, mais aussi à ceux qui viennent après nous. Nous n'avons pas à adopter une forme particulière de foi pour être dans les règles ou dans la norme. Alors cette multiplicité est libératrice. Et c'est bien la libération qui est au cœur de ce que l'Éternel dit à Moïse. J'ai vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans, je suis descendu pour le délivrer. Le récit fondateur du peuple d'Israël, c'est un récit de libération. Ce que rappelle la première des 10 paroles de vie dans le Décalogue, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la maison d'Égypte, du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage ». Et dans le Nouveau Testament, l'œuvre de Jésus de Nazareth est une œuvre de libération. Libération des jugements et des préjugés, des addictions, des paralysies, des aveuglements, des pouvoirs religieux et des fatalités, de la haine et de la peur. Libération des égoïsmes, de l'étroitesse intérieure, du dogmatisme et du littéralisme. L'Égypte, la maison de l'esclavage, a de nombreux aspects, de nombreux outils et de nombreux gardiens. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse, le Dieu de Jésus-Christ, de François d'Assise, de Martin Luther, de Desmond Tutu, de Madeleine Barrault et Suzanne de Dietrich, qui ont fondé la CIMAD, mais ce Dieu, c'est un Dieu libérateur qui envoie Moïse faire sortir son peuple d'Égypte. Le Dieu qui vient, qui appelle, qui rencontre est aussi le Dieu qui envoie et le Dieu qui n'agit pas sans nous dans son œuvre de libération. Ne pas rester à l'écart du monde, s'engager dans les douleurs et les résistances, c'est un chemin pour être et pour devenir en relation à l'image de Dieu. Et c'est alors que Moïse pose la question : qui suis-je ? Qui suis-je pour faire cela ? Moi, l'hébreu égyptien, et ni l'un ni l'autre, l'immigré avec une famille madianite, le meurtrier en fuite, le berger du désert. Je suis là, oui, mais qui suis-je devant ce divin qui déploie, contre l'ampleur de l'oppression, un horizon de libération ? Et Dieu répond. Dieu ne répond pas « Tu es Moïse ». Il ne lui répond pas non plus « Tu es bien placé pour faire cela, puisque tu es un peu hébreu, un peu égyptien, donc tu pourras voir avec ces deux peuples ». Il ne lui dit pas non plus « Mais tu es coupable d'avoir commis un meurtre, alors va donc te racheter ». Il ne lui dit pas non plus « Tu es un homme courageux, qui a déjà traversé beaucoup d'épreuves, et c'est ce courage qui va t'aider ». Dieu ne répond pas à Moïse qui demande « Qui suis-je ?» en lui disant « Tu es ceci ou tu es comme ça. » Dieu répond « Je suis et je serai avec toi. » Au présent et au futur, car la conjugaison en hébreu est telle que les deux temps sont associés, le présent et l'avenir sont rassemblés, ce qui maintient le verbe dans une véritable dynamique. Je suis et je serai avec toi. Et c'est cette réponse qui fait advenir Moïse en Moïse. Ce n'est pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas son origine chez les Hébreux ou son éducation chez les Égyptiens. Ce n'est pas la famille qu'il a fondée ni son activité de berger. Ce n'est pas son histoire, son parcours, ses errances, ses fuites, son exode, ni son savoir-faire, ni ses qualités. C'est que Dieu lui dise « Je suis et je serai avec toi ». Le cœur battant de l'identité de l'humain croyant, tient à cela, au divin venu en relation avec lui. « Je suis et je serai avec toi ». C'est une parole de confiance et une parole d'alliance. C'est une parole de renaissance, de reconnaissance, au-delà de ce que nous savons ou croyons savoir de nous-mêmes. C'est une parole de libération, des paroles et des regards portés sur soi par les autres ou par soi-même. Libération de l'histoire passée, subie ou décidée. Libération de l'injonction de devoir faire ses preuves. Libération des identités assignées par des catégories mondaines. Et alors seulement advient l'être. Moïse en Moïse et dans l'Autre Testament, on peut lire le récit de l'advenu de Paul en Saul. Je suis et je serai avec toi. C'est une parole de bénédiction, de bien dit sur et pour cette personne qui est là, telle qu'elle est. Bénédiction des baptêmes et des confirmations. Bénédiction de la fin du culte. Bénédiction pour les jours d'épreuve et pour chaque jour. Et ce n'est sûrement pas une parole à retourner pour la revendiquer. ou pour revendiquer quoi que ce soit du genre « Dieu est avec moi » ou « Je suis avec Dieu ». Cette parole ne peut qu'être reçue. Elle ne peut pas être brandie comme une arme ou comme un argument. Mais malheureusement, l'histoire et même l'histoire de l'Église présentent tant d'exemples des atrocités commises lorsque la bénédiction est retournée en prétention. « Je suis et je serai avec toi », dit le Dieu en relation, qui par cette relation donne d'advenir, de devenir, d'être. Dieu en relation par qui la vie est portée à l'être et l'être à la vie. Parce que Dieu sait et cet appel à l'être, être humain. Dieu est ce Dieu en quête de chaque être humain, malgré toutes les impasses et les obstacles. Un Dieu dynamique d'être, possibilité d'être, advenir et devenir. C'est pourquoi le verbe être est si présent dans les textes bibliques pour dire Dieu, dont le nom d'ailleurs, au verset 14, est construit sur ce verbe. Une formule qui en hébreu est difficilement traduisible en français, « Je suis qui je suis, je serai qui je serai ». De même, le tétragramme que nous disons « Yahvé », transcrit dans les Bibles avec les quatre lettres Y, H, W, H, ce tétragramme est basé sur le verbe être. Mais ni avec le tétragramme, ni avec le nom de Dieu du verset 14, il n'est possible de définir, de refermer, de dire c'est ça Dieu. Non, parce que c'est toujours rencontre dynamique et que l'être que nous, qui advient en nous devient aussi toujours. Dieu a à voir, à faire avec l'être, avec être, puissance d'être, advenu et devenir, source, élan et libération d'être, ce que l'évangéliste Jean met en poème dans le prologue de son évangile et dans toutes ses paroles de Jésus, le parsemant, Jésus qui dit à nombreuses reprises « Je suis » avec ou sans attribut. Dieu a à voir, à faire, à créer l'être de l'être humain. Moïse et chacun de nous, grâce à cette relation d'être avec qu'il offre à chacun. En accueillant cette relation, cette reconnaissance, cette bénédiction, nous laissons Dieu être Dieu. Sans cela, il ne pourrait pas nous faire advenir à nous-mêmes. Et nous le laissons aussi advenir, nous laissons advenir et passer à travers nous, vers d'autres, cette modalité d'être. Être appelé, être libéré, être envoyé, être béni. Et tout cela, c'est être aimé. Et vous, qui dites-vous que vous êtes ? Amen. invite à vous lever pour entendre la confession de foi de ce dimanche. Puis nous chanterons le spontané. Nous croyons en Dieu créateur, Dieu dont le désir éternel est d'être en relation d'amour. Nous croyons que Dieu crée l'univers et avec lui la possibilité d'être et d'être en relation. Nous croyons que nous sommes créés, chacune, chacun, dans ce projet d'amour de Dieu pour nous, portés en son sein et mis au monde pour devenir à notre tour créatrice et créateur d'un monde vivant. Nous croyons en Dieu révélé en Jésus de Nazareth, qui a connu en son corps et en son âme la joie et la tristesse humaine, et qui a proclamé la venue du règne de Dieu, une communauté d'amitié, de fraternité, de justice, libérée des frontières des peurs et de toutes les formes d'oppression par le mal. Nous proclamons que crucifié pour son témoignage d'amour, il est mort, ainsi que chacune et chacun d'entre nous mourra un jour, et que, par sa résurrection, il ouvre le chemin de nos propres résurrections. Nous croyons que par lui, chaque jour est un matin de Pâques qui nous invite à la vie et à l'amour plus fort que la mort. Nous croyons qu'il nous a laissé l'esprit comme un feu, comme un souffle, comme une eau vive, source vivifiante de nos relations, de nos créations, de nos résurrections, qui nous pousse à chanter et danser le monde à bras le corps. Nous croyons que nous sommes appelés à donner corps à la présence du Christ dans le monde, en nous soutenant les uns les autres par l'amitié, le partage et la prière au sein d'une Église universelle riche de ses diversités. Et nous croyons que quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos forces et nos blessures, telles que nous sommes, chacun a entièrement place dans cette Église. Nous croyons que chacune, chacun et ensemble, nous avons des gestes à poser pour bâtir le projet d'amour de Dieu et contribuer ainsi à la pleine dignité de l'humanité. Et c'est pourquoi nous croyons que nous sommes maintenant et toujours appelés à l'espérance et à la joie. Amen. Des annonces pour aujourd'hui et pour la semaine qui vient. Merci à Suzanne, Sophie et Alexandre d'avoir participé pour la première fois à ce culte. Il y en aura d'autres dans l'année où ils interviendront également. Il y a aussi aujourd'hui, après le culte, eh bien nous pourrons souhaiter un bon voyage à Fred, qui part jusqu'à Noël quasiment, de l'autre côté du monde, mais qui a tout organisé pour que nous soyons accompagnés musicalement chaque dimanche. Donc, oui, bon voyage, et puis à bientôt quand même. Et merci pour cet accompagnement et pour cette quête d'organiste pour le foyer de l'âme. Enfin, aujourd'hui, comme tous les dimanches, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge Et merci aussi à tous les bénévoles qui la prennent en charge afin que cette épicerie soit régulièrement alimentée et que les trop nombreux bénéficiaires puissent trouver de quoi remplir leur panier. Dans la semaine qui vient, alors, nous avons jeudi 12, la pause biblique qui reprend donc son rythme mensuel grâce à Nicole Gigliotti. Il est nécessaire de s'inscrire auprès de Nicole pour la pause biblique puisqu'elle commence par un repas partagé. Et nous nous engageons cette année dans un parcours à travers le livre des psaumes. Et j'ai aussi, ce sera une joie, et c'est une joie pour moi, cette pause biblique sera animée tous les mois par le pasteur Marco Forneron et moi-même. Donc nous avons décidé de travailler ensemble, et donc il y aura deux animateurs pour cette pause biblique toute l'année, puisque Marco reste là jusque fin juin. La séance de mardi sera une séance introductive à l'ensemble du livre des psaumes. Il y aura à 14h30 une réunion du comité d'entraide et mardi soir, ce sera le conseil presbytéral à 20h dans la salle du second. Je vous rappelle pour ces amis ou les amis de la famille que le service d'action de grâce après le décès de Madame Maupin aura lieu mercredi 13 à 14h30 au temple de l'Oratoire. Le jeudi 14, ce sera la pause spirituelle de 12h30 à 13h30 dans le temple. Et les JMJ, le groupe des JMJ, se réunira quant à lui vendredi 15, aussi sur place. Et c'est Brigitte Sick qui fera une évocation de ses ancêtres verriers protestants. Donc, si cela vous intéresse. Vendredi 15 à 20h dans la salle du second. Samedi 16, il y a aussi Évangile et Liberté qui se réunit. Alors, il y a quelqu'un qui était au groupe Évangile et Liberté la dernière fois. Je crois qu'il y a un changement d'horaire. Non ? 10h30 midi ? Bon, d'accord. Alors, ce sera peut-être pour une autre fois. Donc, pour le moment, 10h30, Évangile et Liberté, donc avec Laurent Gagnebin dans la salle du second. Et puis, ah oui, l'après-midi, il y a aussi quelque chose. C'est le groupe Art et Spiritualité qui reprend ses rencontres animées par Anne Penesco, donc autour de textes d'auteurs et de musique, de compositeurs et des résonances que la création artistique a dans la vie des auteurs et compositeurs. Donc, samedi après-midi de 14h30 à 16h. Et dimanche 17, ce sera donc le culte à 10h30 qui sera présidé par le pasteur Marco Forneron. Et il y aura aussi école biblique pour les deux groupes qui se réunissent dans la salle du second. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nous dire, à partager ? Ça en fait déjà beaucoup. Une semaine bien, bien remplie. Alors voici le moment de rassembler notre offrande, joyeusement, avec confiance, avec foi, avec espérance. Et pendant cette offrande, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 290, « Au Père des Lumières ». recueillons chacun et ensemble dans la prière d'intercession.
Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous appelles, qui que nous soyons, où que nous en soyons, et même si nous nous sentons perdus, et même si nous nous trouvons sans intérêt. Emplis-nous de l'énergie de ton amour pour que nous affrontions les difficultés de notre vie et celles de notre monde, et pour que nous soyons disponibles à l'avenir. Nous ne voulons pas céder aux peurs, mais aux œuvres de paix. Donne-nous la sagesse et le courage de faire des choix, spécialement lorsqu'il s'agit de justice et de bonté, et de marcher humblement avec toi. Nous voulons accompagner celles et ceux qui ont besoin d'humaine présence. Réveille-nous par ta confiance en nous, au temps de la tristesse, au temps où tout va mal. Nous voulons vivre dans la confiance en toi, alors que l'angoisse survint et que nous nous sentons trop insignifiants. Fais-nous sentir ta présence dans la solitude, quand nous méditons et rêvons, quand nous avons des questions.
Ô notre Dieu, nous nous souvenons comme Jésus de Nazareth vivait au milieu de nous, comme il nous montrait le chemin. Puissions-nous, nous aussi, vivre comme lui, en nous rendant proches de ceux que nous croisons, quels qu'ils soient. Et nous prions avec les mots qu'il nous a donnés, en disant à voix haute ou dans notre cœur, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Dis-leur ce que le vent dit aux rochers, ce que la mer dit aux montagnes. Dis-leur qu'une immense bonté pénètre l'univers. Dis-leur que Dieu est un élan de partage où chacun donne et reçoit. Dis-leur que sa voix seule peut apprendre ton nom. Dis-leur son clair-obscur et son rire, qu'il est ton espace et ta nuit, ta blessure et ta joie. Et dis-leur aussi qu'il n'est pas ce que tu dis et que tu ne sais rien de lui, sinon cet amour qui te porte. Éternel Dieu vous bénit et vous accompagne sur votre route de chaque jour, dans la joie et dans la peine, dans la force et dans la faiblesse, dans le calme et dans la tempête, dans le travail et dans le repos, dans la solitude et dans la rencontre. Il est avec vous, il est pour vous, aujourd'hui, demain et toujours. Allez maintenant dans sa paix. Amen.